explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est l'histoire d'un jeune homme qui, à l'âge de 18 ans, a éprouvé le sentiment d'être devenu adulte sans avoir appris l'essentiel. On lui avait enseigné plein de choses à l'école, mais il n'avait jamais appris à vivre en pleine nature. Il ne savait quasiment rien des plantes sauvages, des animaux ou des roches. Il ignorait tout des techniques dites primitives, des chasseurs-cueilleurs. Tout un savoir fondamental lui avait échappé. Et il ressentait un irrépressible besoin de combler ce vide. Alors, notre jeune homme, Kim Pa, a décidé de quitter sa Suisse natale pour mettre le cap sur le Grand Nord canadien. Il est allé à la rencontre de peuples autochtones, puis il s'est enfoncé seul dans des territoires sauvages, quasiment vides d'humains. Là, il a expérimenté un mode de vie semblable à celui de nos ancêtres de la préhistoire. Aujourd'hui, Kim Pasch poursuit cette quête entamée il y a 20 ans. Devenu archéologue expérimental, il mène une vie de chasseur-cueilleur plusieurs mois par an au plus profond de la forêt du Yukon. Un parcours singulier qu'il raconte dans un livre intitulé « L'endroit du monde » paru cette semaine aux éditions Artaud. Cet après-midi, Kim Pasch nous emmène bivouaquer sur les terres sauvages du Grand Nord canadien. Et en fin d'émission, avec le spécialiste de l'exploration polaire Stéphane Dugast, nous reviendrons sur l'histoire des expéditions françaises menées en Arctique et en Antarctique. Voilà pour le programme de cette émission, réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Adèle Caglar. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Kim.
Là, je vais regarder. Ouais, c'est un élan.
Oui, c'est vraiment de grosses traces.
Ouais, ce gros mâle est parti par là. Et puis, il s'est envolé.
Je pense que ça remonte à ce matin.
Ah, il y a aussi de grosses traces de loups.
Les traces continuent dans l'herbe. Ce loup est passé par là.
Là, il y a des traces. Ça pourrait être un jeune grizzly. Mais si c'est le cas, ça voudrait dire qu'il y a une maman qui est passée pas loin. Et puis là, je vois pas de traces de maman. Après, elle a pu passer dans les herbes. Puis le petit plus au bord ou dans l'eau. Là, on voit beaucoup de traces simplement parce qu'on a une configuration qui le permet. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un canyon. Et du coup, c'est là où il y a toutes les rencontres. Tout le monde se retrouve concentré au bord des rivières, dans ces coins. Et les moustiques avec, aussi.
Bonjour, Kim Pasch.
Bonjour, Daniel.
Nous vous entendions à l'instant avec Stanley Njutli, un Amérindien de la communauté Gwich'in, en train d'observer donc des traces d'animaux sauvages que l'on peut croiser dans le Grand Nord canadien, dans le Yukon, endroit que vous connaissez particulièrement bien. Hein, vous y passez à la moitié de l'année depuis maintenant une dizaine d'années. Et vous y étiez encore, je crois, il y a quelques jours. Décrivez-nous les lieux.
Volontiers, oui. Alors, ça fait à peine 4 jours que je suis rentré, enfin, ou de retour ici en Europe. Le Yukon. Alors le Yukon, c'est un endroit assez particulier, donc ça appartient au pays du Canada. Et c'est un territoire qui est très au nord, donc puisque sa limite sud, c'est le 60e parallèle, donc s'il fallait qu'on remette ça à l'échelle européenne, ça correspond peu ou prou aux pays scandinaves comme la Finlande par exemple, qui aurait à peu près la même grandeur par ailleurs. Donc ça a beau être un territoire du Canada, c'est la grandeur d'un pays européen, c'est déjà ça, hein, donc c'est très grand. Pour moi qui viens de la Suisse, d'un petit pays, c'est déjà quelque chose. Puis après c'est surtout un pays qui est très sauvage en fait. On a donc une terre boréale, des forêts boréales et arctiques sur la partie nord, et très très peu d'humains. En gros, 40 000 habitants pour un territoire grand comme l'Espagne.
On peut croiser très peu de monde dans une journée, surtout quand vous vous trouvez donc dans cette concession que vous avez acquise, cet immense territoire dans lequel vous vivez une partie de l'année, mais vraiment comme un chasseur-cueilleur au plus près de la nature.
Alors, en partie, oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est mon souhait, c'est-à-dire ce que j'aime et ce qui me motive depuis toujours, c'est de tenter de retrouver en fait un lien avec une façon de vivre ancestral. Parce que je pense que de répondre de façon la plus directe possible à nos besoins nous reconnecte finalement à notre nature biologique, tout simplement, et nous reconnecte aussi à un territoire, puisque quand on cherche à être autonome sur un territoire, on doit le connaître.
Donc, et puis vous connaissez aussi des tas de techniques hein, que vous avez apprises au fil du temps. Si je vous donne un tas de silex, vous êtes capable de fabriquer une multitude d'outils.
Oui, ah bah, tous les outils dont j'aurais besoin, effectivement.
C'est-à-dire, par exemple
On n'a pas besoin de 1000 outils quand on est dans les bois. On a besoin d'un tranchant, déjà, ouais. D'un grattoir ou d'un racloir pour nettoyer des pots, pour gratter du bois, d'une scie... Alors qu'il ne sera pas l'image qu'on a de la scie normale, mais je veux dire un tranchant dentelé, etc., etc. Mais l'avantage du silex, effectivement, et qui rend extrêmement intéressant cette technique, c'est qu'en fait, à partir d'un bloc, d'un morceau de silex, on peut décliner tous les outils dont on a besoin.
Oui. Vous avez réinventé le couteau suisse, en fait, Kim Pasch.
Alors moi, je n'ai rien réinventé, mais nos ancêtres, en fait, avaient le couteau suisse dans la poche, effectivement, pendant des centaines de milliers d'années. Ouais.
Alors nous verrons dans la suite de cette émission que vous êtes loin d'être un ermite asocial, puisque vous avez mis à profit vos savoir-faire, vous êtes devenu archéologue expérimental et vous travaillez avec les peuples autochtones. Mais revenons au début de l'histoire. Comment le Suisse que vous êtes en est venu à vivre au fond des bois, dans ce grand nord canadien, une bonne partie de l'année? Vous remontez à l'enfance, hein, ça prend ses racines dès l'enfance, cette histoire.
Oui, puis il y a des choses, en fait, effectivement, encore un peu mystérieuses. Alors, peut-être, pour l'instant, ce que j'identifie le mieux, c'est que j'ai un grand-père qui avait déjà fait une démarche, finalement, un peu semblable à son échelle à lui, dans les années 70 en Suisse romande, puisque avec sa compagne, ils ont décidé de, on va dire, quitter la course à la carrière pour s'installer dans une petite maisonnette en lisière de forêt en Suisse romande.
Une sorte de cabane au Canada, hein, déjà.
Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Avec des panneaux solaires. Pour l'époque, c'était révolutionnaire et ça coûtait extrêmement cher, mais une source, un jardin. L'idée, c'était une forme d'autonomie. Mais avec beaucoup de modestie hein, sur le territoire paysan suisse. Et ce grand-père, l'avantage, c'est qu'il avait du temps, parce qu'en fait, il travaillait moins que la moyenne. À 50 ans, en gros, il était très disponible. Et j'ai passé beaucoup de temps avec ce grand-père. Ouais. Avec, j'ai l'impression, un calme chez lui qui m'a mis en confiance. Et donc, j'ai associé sans doute... J'ai dû faire une association entre le calme de cet adulte qui avait du temps, qui m'écoutait, qui était là pour moi, et la nature qui entourait finalement le lieu de notre rencontre.
Ouais. Et vous passiez à ce moment-là énormément de temps, mais même assez petit, hein, à 7 ans, vous pouviez comme ça vous enfuir, vous échapper en forêt et qu'on ne vous voit plus pendant de longues heures.
Oui, effectivement. Alors c'était d'ailleurs tout le souci pour certains de ma famille. Mais c'est rigolo parce que c'est vrai qu'au-delà de l'anecdote, il y a quelque chose, moi qui ai des enfants maintenant, j'observe que mes comportements à moi, enfant, sont pas communs chez les enfants en général.
Oui.
C'est-à-dire que moi, je m'enfuyais vraiment, quoi.
Oui.
Il fallait aller me chercher au milieu de la forêt. J'avais pas peur. À 3-4 ans, je partais déjà comme ça. Donc, il y avait une attirance pour moi. Il y avait quelque chose qui m'attirait dans le... Non pas la nature, je n'aime pas tellement utiliser ce mot-là, mais dans le sauvage, l'indompté.
Oui. Et ce sentiment que l'école n'était vraiment pas faite pour vous. Hein. Vous avez des mots assez durs, un cadre sclérosant et mortifère. On éteignait petit à petit la flamme qui était en nous. Pour vous, vraiment, l'école n'était pas l'endroit où vous avez le plus appris.
Ah non, ah mais je reste sévère. Hein. Une école, en tout cas physique, ressemble à tout point de vue à une prison, si on y réfléchit bien. Alors je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, mais cela étant dit, en disant ça, je ne condamne pas le fait de l'éducation, on s'entend bien, c'est les formes, certaines formes qu'elle a pu prendre. Mmh. Et moi clairement enfant, parce qu'encore une fois ça peut convenir à plein d'enfants, simplement moi j'ai subi cette forme-là d'éducation qui ne me convenait pas. Ça m'a apporté sans doute une bonne capacité de résistance, donc je peux même remercier finalement ce cadre-là,
ouais.
Parce que quelque part, ça m'a formé aussi, mais de façon indirecte.
Ouais. Une autre chose qui vous a formé, ce sont les livres que vous lisiez dans la bibliothèque de votre grand-père, dans cette fameuse cabane dans la forêt suisse. D'abord, beaucoup de lectures sur les peuples amérindiens, et puis aussi des lectures avec certains auteurs qui trouvent un écho particulier, comme Jack London, l'auteur de L'Appel de la forêt. Le titre original est The Call of the Wild, l'appel du monde sauvage. C'est l'histoire d'un chien domestique, Buck, vendu comme chien de traîneau à l'époque de la ruée vers l'or et qui, confronté à la rudesse du territoire du Yukon, renoue avec ses instincts naturels.
Buck était apte, voilà tout. Il s'accommodait inconsciemment à son nouveau mode de vie. Civilisé, il aurait pu mourir pour une cause morale, par exemple pour défendre les enfants du juge Miller. À présent, sa décivilisation était totale, comme le montrait son aptitude à fuir toute question morale et par là même à sauver sa peau. Bref, il progressait ou régressait rapidement. Ses muscles se firent durs comme du fer et il devint insensible à la douleur ordinaire. Non seulement il apprenait par l'expérience, mais des instincts endormis depuis longtemps se réveillaient en lui. Il se débarrassait de tout l'héritage domestique, se rappelait confusément la jeunesse de sa lignée, le temps où les chiens sauvages couraient en meute à travers la forêt primitive et pourchassaient leurs proies pour les tuer. Aucun effort ne lui était nécessaire pour apprendre à se battre à coups de crocs acérés, vifs comme ceux du loup. C'était ainsi que se battaient ses ancêtres disparus. Il ranimait en lui la vie de jadis, et quand dans la nuit froide et immobile il pointait le nez vers la lune et poussait un long hurlement de loup, c'était ses ancêtres, morts et enterrés, qui hurlaient à travers les siècles et à travers lui.
Extrait de l'appel de la forêt de Jack London, lu par Guillaume Gallienne, bien sûr. Alors ce récit n'est pas seulement un roman animalier, hein. On peut facilement transposer le cheminement de ce chien à celui d'un humain. C'est un peu ce que vous aviez envie de vivre, Kim Pasch, ce retour au monde sauvage, cette façon de renouer avec les racines, avec des ancêtres.
Ouais. Il y a quelque chose, ce qu'on appelle la féralité, en fait, le retour, le réensauvagement, effectivement. Mais oui, alors je crois que profondément, et c'est assez simple finalement à expliquer, très vite enfant, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'un hermétisme entre les adultes, enfin la culture et la société dans laquelle j'étais, et une nature sauvage, c'est-à-dire que, et on va tous se reconnaître dans cette description, c'est-à-dire que rares sont les personnes qui peuvent nommer plus que 5 arbres dans la forêt, mais en fait les paysans n'en savent pas plus, parce que le monde sauvage, ce qui est pas domestiqué, c'est un peu pour notre culture l'ennemi, si on veut bien. Mais c'est inconscient tout ça. Mmh. Et moi, ça m'a intrigué. Je me suis dit, pourquoi finalement on est tout le temps en train de parler de peuples traditionnels? On adore National Geographic. Enfin, il y a plein de magnifiques magazines qui font, qui dressent le portrait de tous ces peuples-là. Et nous, en fait, finalement, on est complètement étrangers à ces milieux-là. Mmh. C'est ça qui m'intéressait, en fait.
Ouais. Alors, dès l'âge de 19 ans, vous y allez justement à la rencontre de ces peuples autochtones. Mmh. Vous décidez de mettre le cap sur le Canada, sur le Québec plus exactement. Vous y avez de la famille. Alors, vous vous dites, je vais, grâce à eux, peut-être pouvoir rencontrer des Amérindiens. Ça se fait pas aussi simplement que ça. Hein. Vous vous rendez compte que finalement, c'est un peu cloisonné, hein.
Oui, en effet, ouais, au Canada, c'est la question entre les peuples traditionnels, les Premières Nations et les non-Premières Nations est un sujet assez compliqué. Mais moi, en fait, je l'ai attrapé de plein fouet parce que naïvement, je pensais justement à 20 ans, 19 ans, quand j'ai débarqué, que mes cousins canadiens allaient forcément me faire rencontrer des Amérindiens. Ça n'a pas été le cas. Ouais. Mais j'ai fini par réussir à m'enfiler de façon assez incongrue, finalement, dans le Grand Nord québécois pour me faire accueillir par des Atikameks.
Ouais. Mais là, cette rencontre, elle est extraordinaire parce que vous la racontez dans le livre, dans le détail, mais vous y allez avec une extrême naïveté. En plus, vous vous décrivez, vous avez une sacrée allure, hein. Vous êtes rasé avec une crête sur la tête, vous avez votre arc en bandoulière, vous marchez dans la neige, vous vous retrouvez en pleine nuit sans lampe, vous êtes pris en stop, finalement vous frappez à une porte et vous tombez sur des Atikameks qui se demandent « Mais qu'est-ce qu'un Suisse vient faire à la porte de notre maison ?»
Ouais, effectivement. Bon, alors c'est une superbe histoire parce qu'en fait, finalement, ma première rencontre avec les Atikameks, elle se fait par l'humour. Parce qu'en fait, finalement, je me retrouve à cette porte, à toquer au milieu de la nuit, au milieu de la forêt. J'y ai été amené par d'autres Amérindiens qui me disent « Tu vas rencontrer la personne que tu dois rencontrer », mais qui ne s'attendaient pas du tout à me rencontrer si loin, au milieu de la nuit, dans les bois. Il y a quelque chose de très comique à cette rencontre. Et elle met le ton sur, je pense, une particularité de beaucoup de ces peuples-là, qui est un humour extrêmement riche et joyeux, profondément joyeux, et qui montre, je crois, moi, la profonde joie qu'il y a dans ces peuples traditionnels.
Mais votre rencontre avec ces Indiens Atikameks vous a quand même déstabilisé, un peu surprise, un peu déçu, parce que vous aviez une culture, mais vous le dites, très livresque de ces gens-là, qui finalement avaient une vie assez éloignée de ce que vous imaginiez.
Oui, mais alors, en fait, moi, j'incarne de façon très basique, je pense, l'Européen moyen. Ouais. Je suis très standard, en fait. Nous, en Europe, dans finalement un continent très exigu, dans lequel on maîtrise la nature depuis longtemps, on a des fantasmes de nature sauvage. Ouais. Et finalement, moi, j'ai mis 10 ans, mais peut-être plus, à détricoter ça. Finalement, mon chemin, c'est un chemin de détricotage. Ouais. C'est ôter des couches pour aller vers un essentiel que je vise, mais dont mes représentations sont biaisées. Et donc, les Atikameks, c'est exactement ça. Ma rencontre avec eux, moi, j'imaginais des Amérindiens qui font des prières avant d'abattre un animal, qui ont encore beaucoup de savoir traditionnel, puis je me retrouve avec des Amérindiens qui, en fait, sont sauvages, mais d'une autre façon. Et ça, j'ai mis beaucoup d'années à le comprendre. Mmh. Donc au début, j'étais rebuté par ce que je croyais être une acculturation de leur part.
C'est le début d'une longue quête hein, pour vous, faite de découvertes, de déconvenues et de prises de conscience. Un parcours initiatique que vous allez nous raconter. Kim Pasch nous emmène bivouaquer dans les terres sauvages du Grand Nord canadien cet après-midi sur France Inter.
Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton
C'était France Gall qui chantait Résiste sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Cette pierre est pleine de fer et lorsqu'on la frappe avec une autre pierre, ça crée des étincelles. Les étincelles doivent allumer quelque chose, évidemment. Et donc, un des matériaux les plus inflammables, c'est ce champignon qui pousse sur le bouleau. C'est étonnant en fait à quel point il est inflammable. Mets-toi ni trop près, ni trop loin. Essaye peut-être un peu plus haut, comme ça, tu le touches pas. Je peux le tenir. Ah, j'ai vu une étincelle, une grosse.
Oh, regarde-moi ça.
Ah, là, c'est bon. Elle est vraiment toute petite.
Oui.
C'est bon, elle tient. C'est la première étape. Et maintenant, tu peux placer le morceau de champignon à l'intérieur. Souffle dessus. Souffle pas trop fort, mais juste en continu.
Yeah, there. Keep going.
Continue.
Hey, that really worked.
Ça marche vraiment.
Unbelievable.
Incroyable.
Yeah.
On a fait un feu.
Nous bivouaquons cet après-midi avec l'archéologue expérimental Kim Pasch et nous venons d'entendre un extrait du film Yukon sur les traces des caribous dans lequel on vous voit, Kim Pasch, allumer un feu en utilisant des méthodes préhistoriques. C'est difficile, ça prend du temps d'allumer un feu avec des pierres et un champignon ?
Non, pas du tout. En fait, c'est plus rapide qu'avec un briquet ou des allumettes la plupart du temps. Je m'amuse encore des fois à faire le concours avec des gens. En fait, en gros, on va dire que beaucoup des techniques de la préhistoire, ça nous paraît difficile ces choses-là ou ces modes de vie simplement parce qu'on ne les connaît pas. Mais l'inverse serait tout aussi vrai. C'est-à-dire si on prenait un de nos ancêtres préhistoriques et puis qu'on le lâchait en plein milieu de Paris lui, il trouverait qu'on est des fous, furieux, ouais. Que c'est absolument impossible de vivre comme ça. Donc c'est juste un éloignement parce qu'on ne connaît pas. Mais quand on côtoie au quotidien ces techniques-là, en fait, elles s'avèrent très simples. Mmh. Ça met le doigt sur une chose qui est importante, c'est que si c'est pas aussi compliqué que ce qu'on croit de vivre dans la nature de façon autonome, si nos ancêtres, contrairement à ce qu'on croit, ne vivaient pas à transit froid au fond des cavernes, à se faire bouffer par des tigres à dents de sabre, alors... En partie, ça remet en question des stratégies tout à fait contemporaines de vie. Parce que souvent, on a l'impression qu'on va vers du mieux, du plus agréable, du plus simple. Moi, je pense que c'est pas le cas. Et quelque part, c'est l'intuition que j'avais enfant. Et j'ai suivi cette intuition et tout confirme ça.
Oui, et puis, même de façon très concrète, savoir allumer un feu de cette manière-là vous a concrètement sauvé la vie.
Oui, c'est vrai. C'est une fois, effectivement, il m'est arrivé d'avoir presque la perte totale de la mobilité, de la motricité de mes mains.
Engourdi par le froid.
Ouais, engourdi par le froid, en fait. J'étais en début d'hypothermie. Et la seule chose qui m'a permis de faire du feu ce jour-là, c'est des cailloux. Parce qu'en fait, les cailloux, je pouvais vraiment juste grossièrement, en fait, les tenir dans mes mains. Mmh. Et en frappant un caillou sur l'autre, ben, tout le monde aura l'image, de la nuit des temps, quoi. Ouais. Un humain qui tape sur deux cailloux. Ouais. Y a rien de plus, d'épinal. Ouais. Et effectivement, avec ça, j'ai réussi à faire du feu. Et ce jour-là, je pense qu'il y a un petit déclic qui se fait. C'est-à-dire que jusqu'à là, moi-même, je pense, je m'interrogeais sur, est-ce que si finalement j'étais pas dans quelque chose de l'ordre d'un fantasme ou folklorique, et ce jour-là, en fait, je me suis dit non, il y a quelque chose de plus profond derrière tous ces gestes et ces savoirs.
Tous ces gestes, vous les avez appris très concrètement sur le bord du lac de Neuchâtel en Suisse, sur un site néolithique de Glétrans. Là, vous avez appris, mais pas seulement à faire du feu, vous avez appris d'innombrables techniques préhistoriques, à faire des nasses, à faire des paniers, à utiliser l'écorce des bouleaux, à chasser comme le faisaient les hommes préhistoriques.
Oui, c'est ça. Alors, c'était une école incroyable, c'est-à-dire comme nous, on n'a plus de peuple traditionnel chez nous, donc en gros nos Amérindiens d'Europe ont disparu il y a 7000 ans, ça veut dire que quand j'ai voulu retrouver ces racines, ben il y a personne qui pouvait finalement, à part les archéologues éventuellement, et c'est ça qui m'a naturellement amené vers l'archéologie expérimentale justement, donc en refaisant ces gestes de nos ancêtres, c'était une façon pour moi de renouer un lien actif avec ses ancêtres.
Ouais. Alors, une fois que vous avez acquis ces savoirs, évidemment, il y a toujours ces allers-retours entre le Grand Nord canadien, parce que c'est essentiellement là que vous vous rendez à chaque fois, et l'envie d'utiliser ces techniques. Vous aviez, à cette époque, c'est plus vraiment dans cet état d'esprit que vous êtes aujourd'hui, mais à cette époque, vous aviez un fantasme, c'était réussir à partir presque nu dans
non,
ces grands
presque,
espaces.
C'était même carrément, je peux le dire en fait, mon fantasme, mais qui était une sorte de besoin symbolique, je crois, c'était de m'affranchir de la civilisation. Donc j'avais imaginé, j'avais élaboré cette idée folle, pas parce qu'elle est infaisable, mais parce que je la trouve très peu réaliste aujourd'hui, effectivement. Mais je je suis touché par l'envie de ce jeune homme que j'étais, qui était de prendre toutes mes affaires, de les noyer au fond d'un lac, donc de me retrouver à poil au bord d'un lac, en milieu sauvage, et de vivre un an tout seul en refaisant tout depuis le début. Symboliquement, je m'étais dit, si j'ai pu faire un an, je peux en faire 10. Et l'idée, c'était de m'affranchir de la civilisation. Mais je crois que, parce que voilà, le symbole est plus important ici que, parce qu'en fait, je n'y suis jamais arrivé, tout simplement, parce que un humain n'est pas fait pour vivre seul pendant un an. Si on le faisait à plusieurs, ce serait marrant, mais, je crois que ce qui est important là, dans ce geste-là, ou dans ce symbole-là, c'était que, pour moi, en fait, il y avait vraiment, enfant, une sorte de rage. Je disais souvent, j'ai pas décidé, moi, d'être né ici et là, et ça me va pas du tout ce qu'on me demande de faire, en fait. Devenir grand dans un monde civilisé ne m'allait pas, ne me va toujours pas. Donc je me suis inventé un autre chemin, en fait.
Alors ce chemin, il est parfois tortueux, parfois scabreux. Vous partez notamment toujours à la vingtaine en Colombie-Britannique. Donc là, on est juste en dessous de l'Alaska, le long du Pacifique.
Et sous le Yukon, par ailleurs.
Ouais. Voilà, sous le Yukon, le long du Pacifique, toujours au Canada. C'est en été, donc il fait plutôt... la température est clémente. Mais par contre, il y a un paramètre auquel vous n'aviez pas trop songé. Ce sont... les moustiques.
Oui, les fameux moustiques.
Dès que vous arrivez, vous vous rendez compte qu'il y en a beaucoup. Un vieil Amérindien que vous croisez vous dit, mais vous allez vous faire dévorer par ces
moustiques. Parce que j'ai pas de protection, en fait. Effectivement, il me voit sans filet autour de la tête.
Et vous vous dites, on verra bien.
Effectivement, ouais.
À ce moment-là, vous y allez, vous ne vous posez pas plus de questions.
Enfin, je me dis juste, plus simplement, si des ancêtres, des gens l'ont fait à l'époque, il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas les moyens, ils n'avaient pas de filet de protecteur. Donc, en gros, c'était une mise en situation pour moi, qui forcément allait être fertile. en gros.
Alors, allait-elle être fertile?
C'était mon idée, c'était le prérequis.
Les nuits sont atroces parce que vous avez le choix entre étouffer sous la couverture ou dès que vous laissez un petit bout de visage pour respirer, vous êtes immédiatement harcelé par des nuées de milliers de moustiques. Ça a l'air absolument terrible, vous avez le visage en feu. Et là où ça devient vraiment dangereux, ces moustiques auraient pu provoquer un drame, c'est au moment où vous décidez de traverser une rivière. Vous mettez votre sac et vos affaires sur un petit radeau. Dès que vous retirez vos vêtements, évidemment, les moustiques attaquent. Alors pour éviter qu'ils ne vous dévorent, eh bien vous vous précipitez dans l'eau.
Aussitôt dans l'eau, je sentis le courant m'aspirer. Le froid me coupa le souffle, comme un coup de poing dans l'estomac. L'eau ne devait pas dépasser les 8 degrés. Je tentais désespérément de me hisser sur le radeau, mais chaque fois, il basculait et je replongeais. J'essayais ensuite de l'orienter pour sortir du courant, mais celui-ci le repoussait systématiquement vers la berge. J'avais beau nager de toutes mes forces, il était trop fort pour moi. Il me fallait attendre d'être naturellement porté vers l'autre rive. Le long de la rivière gisaient d'innombrables arbres. Certains restaient bloqués entre d'autres troncs toujours debout. Des branches s'y entassaient à leur tour et formaient des barrages. Le flot butait contre ces obstacles et creusait les berges sous les arbres avec une force redoublée. J'eus à peine le temps de réaliser la situation quand l'embarcation vint percuter de plein fouet le tas de bois. Sous le choc, mon radeau allait-il voler en éclats, laissant mes affaires se disperser dans la rivière? Contre toute attente, il tint bon. Mais complètement noyé par le flot, il se fit happer sous le barrage. Je me débattais pour ne pas être englouti avec lui.
Extrait de votre livre, Kimpach, lu par Eric Oswald, titre de votre livre L'endroit du monde, paru aux éditions Artaud. Vous allez finir par ressortir de cette rivière, le récit est bien plus long que ça. Là, on n'est qu'au début de ce qui se passe, vous allez finir par en ressortir, mais absolument épuisé, après bien des manœuvres. Ce jour-là, clairement, vous n'êtes pas passé loin de la catastrophe.
Oui, et puis c'est pas la seule fois, hein, mais ça c'est toute la beauté de l'ingénuité, de la naïveté, parce que ça m'a amené finalement... Mais en gros, en fait, le milieu sauvage dans lequel j'ai fait ses pas était au rendez-vous, c'est-à-dire qu'il a répondu à mes attentes en me montrant exactement ce qu'il était, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une nature beaucoup plus forte que ce que j'aurais pu imaginer. Mais encore une fois, finalement, à chaque fois, tous ces accidents potentiels, mais aussi les joies, parce que tout est opposé, enfin, il y a autant de joie que de peine, finalement, dans ces pas, sont le reflet de mon incompétence et quelque part de ma culture, de notre incompréhension de ces milieux.
Mais à quel prix auriez-vous pu le payer? On ne peut pas s'empêcher de penser au livre. Alors, vous ne le citez jamais dans votre ouvrage, mais au livre Into the Wild de John Krakauer, qui relate l'histoire réelle de Christopher McCandless, un étudiant qui rejette les principes de la société moderne et qui part justement pour le grand nord canadien ou les terres gelées de l'Alaska plus exactement, mais son aventure pour lui finit mal, hein, puisqu'il finit empoisonné en s'intoxiquant avec des plantes sauvages. Pour vous, la traversée de cette rivière aurait...
Je me permets juste, parce qu'en fait il n'est pas mort d'intoxiqué, malheureusement ce que le film a traduit, il est mort d'avoir mangé une seule plante qui par ailleurs est comestible, mais lorsqu'on est en monodiète dessus pendant 3 mois, finit par nous empêcher de digérer les aliments. Mais je le dis parce qu'en fait souvent on associe du coup, mon dieu, plante sauvage, ah vous voyez lui il est mort. Quelque part c'est pour ça en fait que, alors c'est pas que je le cite pas, c'est pas volontaire en fait, j'aurais pu le citer. Hein. Et j'ai d'ailleurs adoré le livre de John Krakauer, qui est un très bon livre, et le film qui va avec par ailleurs. Et puis clairement il y a des similitudes, je pense, entre ma position et la sienne. Il y a des choses à tirer. Mais est-ce que les trappeurs m'ont fait remarquer au Canada en parlant de ce livre, c'est de dire finalement on parle que de ceux qui ont pas réussi. Inconsciemment, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ah bah vous voyez, voilà quelqu'un qui a voulu s'affranchir, bah regardez ce qui arrive à ceux qui veulent. Et quelque part, moi j'ai eu la chance de pas en mourir de ces premières expériences. Puis après j'ai sans doute eu l'intelligence de mieux m'entourer suite à ce voyage-là, parce qu'en fait très vite je me suis rendu compte que j'avais pas assez de connaissances, que cette nature était beaucoup plus forte que ce que je croyais, et qu'en fait si j'allais, pour ne pas mourir, il fallait que j'apprenne et que je me remette dans la posture d'étudiant finalement.
Mais quel rapport vous entretenez au risque, au danger, à la mort? Vous avez l'air de dire, bah oui, si je m'étais trompé, eh bien oui, j'y serais passé, mais après tout, c'est... Comme mais si c'était une leçon du...
Ben, clairement, mais déjà parce qu'en fait, moi, alors, j'ai... Vous savez, je pense que les individus que nous sommes sont vraiment secondaires par rapport au corps social auquel on appartient. On est très remplaçables, nous, hein, je veux dire, on vit pas très longtemps, les humains. Par contre, ce qui perdure sont nos cultures, sont la transmission, l'héritage. Et en fait, depuis longtemps, je crois, c'est ça qui m'intéresse, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, ce qui fait que je suis tout à fait remplaçable, moi. Donc finalement, alors je dis pas que je vais de façon désinvolte face à la mort, mais simplement j'accepte la mort. Et dans la nature, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que voilà, peut-être une des plus grandes leçons de ces milieux sauvages, c'est de nous remettre à notre place de mortel, éphémère, au fait que le danger, le risque font partie du jeu, et qu'en fait, c'est pas tellement intéressant de vouloir absolument les supprimer, parce qu'en les supprimant, on supprime la joie de l'incertitude. Et en fait, il y a quelque chose de beau à ne pas savoir et à ne pas prédire ce qui va se passer le lendemain.
Nous poursuivons notre chemin dans les grands espaces du Nord canadien avec vous, Kim Patch, dans un instant. Vous allez nous dire où vous ont mené aujourd'hui ces 20 années de quête à travers les terres sauvages. I have a memory of a time and place where history resigned. Now my apology. All the light came in to form in my mind. Reach out to all the ones who came before you. Ponder what is right. You and I in defiance. Speak out the conversation they afford you. Wisdom of the wise. You and I. So hard to separate myself from all that is and was and will be torn apart. You were running unafraid. I know you were. I've changed my way. You know I take it all to heart. Home is where you called my name. C'était Sufjan Stevens et Angelo Di Augustin qui chantaient Reach Out.
France Inter, le temps d'un bivouac.
We're trapping that winter and we have our home. We had log cabins where we live and then
on avait des cabanes en bois. Et puis là où on chassait, on avait également des tentes. On vivait dans des tentes, on les recouvrait de neige. Et on faisait des feux à l'intérieur des tentes. On avait tous des vêtements très chauds. On avait de la fourrure dans les mocassins. On avait des manteaux très chauds en fourrure. En automne, on faisait la cueillette. On cueillait des baies, puis des racines aussi. Des racines dont on se nourrissait pour survivre. Parce qu'en réalité, on n'avait pas de légumes ou de primeurs ou autre chose comme ça. Tous les aliments étaient des aliments secs. On avait des œufs, de la farine, du sucre, tout ça en sec. Et puis sinon, on se nourrissait à partir de ce que nous offrait la terre ou les animaux. On mangeait du castor, du rat musqué, du lynx, du hérisson, des choses comme ça, de l'élan, du caribou.
Un Indien de la nation Tutchone du Sud, dans le Yukon, au Canada, évoquant en 1998 son enfance sur France Culture. Ce qui semblait déjà des souvenirs d'enfance assez lointains en 1998 doit être encore plus dépassé aujourd'hui. Y a-t-il encore des Amérindiens qui vivent comme ça, proches de la nature, dans le Yukon, Kim Pasch?
C'est une question qui est plus complexe qu'elle n'y paraît, parce qu'en fait, de prime abord, alors oui, déjà, la réponse courte, c'est oui. Toutes les communautés au Yukon qui ont un fort pourcentage d'Amérindiens vivent encore en grande partie de chasse et de cueillette. Je dis bien en grande partie, mais comme ils sont dans un pays moderne, ils ont aussi accès en même temps. Donc ils vont avoir des motoneiges, ils vont avoir des habits comme nous, ils ont un fusil. Enfin, clairement, ils sont une hybride, on va dire. Ils vivent une hybridation des deux cultures. Mais clairement, il y en a une qui perd du terrain sur l'autre, clairement. Et la raison pour laquelle la culture traditionnelle perd du terrain, c'est pas parce qu'elle est moins bien, et ça je pense que c'est important de le comprendre, c'est parce qu'en fait, notre culture à nous, occidentale, grignote très gentiment les terrains. Donc ça commence surtout par le territoire, c'est-à-dire qu'en fait, le moins on a accès à des lieux sauvages, le moins on peut mener une vie sauvage. Donc ça commence par là, après l'enseignement, toujours mon copain obligatoire des enfants à qui on apprend surtout l'histoire européenne avant leur histoire à eux, puisque c'est une histoire orale, donc difficile à transmettre à l'école, etc. etc. Tous ces phénomènes-là, finalement, forcent, qu'ils le veuillent ou non, ces peuples à monter dans le train de la civilisation. Mais quelque part, ils vivent une forme de déclin et de fin de leur culture. Et la seule chose qu'on sait, nous, non-Premières Nations, leur proposer, c'est un maintien du folklore. Mais c'est pas la même chose. Et moi, je pense, en fait, aujourd'hui, que on sait pas, en fait, de quoi l'avenir est fait. Et je pense que l'appauvrissement de la diversité au sein de l'humanité, c'est-à-dire de perdre toutes ces cultures-là, est une mise en danger, à mon avis. Parce qu'en fait, en gros, moi, je fais le pari que si dans 10 000 ans, il y a des humains sur Terre, ils vivront sans doute de façon bien plus proche du mode de vie des chasseurs-cueilleurs, donc de ces peuples-là, que d'une autre. Moi, j'en suis convaincu. Si je devais parier, je parierais, je mettrais tous mes deniers là-dessus.
Oui, tous vos deniers. Mais enfin, on sera pas là pour ramasser la mise dans 10 000 ans. De toute façon, vous avez beaucoup appris hein, aux côtés de ces Amérindiens, mais aussi aux côtés des trappeurs que vous avez pu croiser, accompagner sur le terrain. Vous avez appris la chasse à leur côté. Ouais. Et puis, la chasse vous donne aussi des leçons. Vous êtes à un moment où vous êtes seul. Il y a un troupeau de mouflons que vous traquez. Et vous faites une découverte étonnante pendant cet épisode de chasse.
Oui, effectivement. Je tente une approche sur ce troupeau. Parce que je chasse à l'arc, il faut peut-être le préciser. Oui. Donc il faut être très proche. Il faut être à 15 mètres des animaux pour tenter d'en attraper un. Et je les vois perturbés par quelque chose. Mais j'ai l'impression, je finis par comprendre, c'est pas moi. C'est qu'il y a une meute de loups qui est en train de faire une approche semblable au même moment. Quelques mètres sur le côté, en fait. En vue aérienne, on aurait vu un humain qui s'approche du troupeau et 10 mètres à côté, une meute qui fait la même chose. Et les loups me passent devant. Elles me surprennent complètement. Je suis soufflé par cette attaque. Ils attaquent le troupeau, loupent leur chasse. C'est un grand moment de bonheur pour moi parce que quelque part, je me suis dit, mais c'est incroyable d'avoir eu la même lecture qu'une meute. C'est-à-dire que si j'étais quasi au même endroit qu'eux au même moment, c'est que c'était le bon. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose, par contre, c'est de me dire, mais eux, en fait, ils sont en groupe.
Eh oui.
Moi, je suis tout seul depuis des mois dans ces montagnes.
Ouais. Alors, ils étaient en groupe et en plus, ils vous avaient, a priori, ils savaient que vous étiez là. Alors, ils vous avaient invité à leur chasse. Alors, ou ils avaient toléré votre présence.
Oui, on va dire ça.
Comment
peut-être.
Vous imaginez?
Moi, j'aime bien me dire d'un point de vue plus presque ésotérique un peu. J'aime l'image, le symbole, encore une fois, on va dire, de l'invitation, d'avoir été invité à une chasse. On saura jamais, c'est pas important. Mais le symbole est important.
Et le symbole aussi de cette meute vous fait réfléchir. Vous vous dites finalement, cette approche que j'ai de la nature, à ce moment-là, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. Je suis très individualiste dans cette quête. C'est une quête solitaire. J'ai appris d'innombrables techniques pour survivre seul dans la nature. Mais je suis terriblement seul par rapport à cette meute de loups.
Ouais, c'est vrai. Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours eu intuitivement, c'est-à-dire le manque de la tribu. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis à la recherche de ces racines.
C'est vrai.
C'est de renouer quelque chose avec d'autres. Mais ce chemin m'a amené finalement à l'époque à beaucoup de solitude. Et je crois que j'en prends conscience à ce moment-là. Que le chemin seul n'est pas le bon. En fait, il faut trouver autre chose. Alors, à partir de là, vraiment, je me suis acharné à
déployer tout ce qui était en mon pouvoir pour ramener du lien actif quoi dans le quotidien. C'est-à-dire que du moment que je m'ouvre à cette idée qu'il faut que je refasse tribu, s'ouvrent à moi des opportunités qui n'étaient pas présentes jusque-là.
Et vous travaillez notamment avec les peuples, on dit peuples premiers, les nations premières du Yukon. Finalement, vous vous êtes retrouvé sur ce besoin de renouer avec les racines.
Ouais, alors c'est vrai, c'est ça qui est assez exceptionnel puisque à l'époque donc mon travail d'archéologue expérimental me faisait refaire des objets pour les musées du Yukon et un jour en fait des autochtones qui ont vu mes répliques ont cherché à me rencontrer.
Les objets que vous fabriquiez à partir d'os de cailloux,
des répliques d'objets proto-historiques en fait qui donc sont leurs ancêtres à eux sur place, on me demandait en fait d'en faire des répliques. Et quand ces autochtones voient les répliques, eux pensaient que plus personne savait faire ça. Donc ils ont demandé à me rencontrer. Et là, on m'a expliqué, et c'était très touchant, qu'en fait, dans beaucoup de ces communautés, pas toutes, mais dans beaucoup des communautés amérindiennes au Yukon, il y a la volonté de maintenir, de perdurer ces traditions qui sont en perte d'élan. Et on m'a invité, ce qui est pour moi, j'en suis toujours ébahi en fait, que j'ai été invité à réfléchir sur cette question-là. Et sans doute qu'effectivement le point commun c'est ça, c'est que moi je me considère comme orphelin de ses ancêtres, ses anciens ancêtres, et que j'ai fait une démarche proactive dans ce sens, et que quelque part cette démarche est finalement assez semblable à celle des gens qui aujourd'hui cherchent à perdurer leur culture traditionnelle.
Et vous avez des échanges très riches avec ces cultures amérindiennes, à l'image de cet échange avec votre ami Stanley Njutli, amérindien de la communauté Gwich'in. Il vous explique comment il utilise l'écorce de bouleau.
Il a l'air pas mal celui-ci. C'est un bouleau de bonne taille.
Ouais, ça devrait aller.
On peut commencer à l'écorcer.
Avec un ou deux morceaux comme ça, on devrait pouvoir fabriquer plusieurs récipients. Ce qui est étonnant, c'est que l'arbre ne meurt même pas lorsqu'on prélève son écorce. Il continue même de pousser.
C'est vrai, car cet arbre peut être utile à nouveau. Les anciens disent toujours, ne prends de l'arbre que ce dont tu as besoin. Ne sois pas trop gourmand. C'est ce qu'ils nous disaient quand ils nous enseignaient la vie. Il y a longtemps, les bouleaux servaient à fabriquer leurs canoës. C'est un bois léger qui flotte et son écorce est étanche. Et on peut aussi l'utiliser comme un allume-feu. C'est un arbre très important pour nous. Ça fait partie de notre tradition, prélever uniquement ce dont nous avons besoin.
Vivre au plus près de la nature, c'est aussi apprendre à respecter ses équilibres.
Oui, alors ça me touche d'entendre Stan, mon ami Stan, qui a aujourd'hui 72 ans, qui est en pleine forme. Mais ce qu'il dit là, effectivement, est quelque chose qui doucement devient une relique d'une attitude qu'ils avaient et qui est finalement en disparition. Mais ça me touche parce que, en fait, je pense que dans ces mots très simples qu'il vient de dire, il y a la pérennité des humains. C'est-à-dire que tant que les humains avaient cette exigence toute simple de se dire, mais en fait, on prélève que ce dont on a besoin. Et voilà quelque chose qu'on a perdu. Et voilà ce que je cherchais, en fait. C'est tout simple. Et j'ai dû aller très loin pour le retrouver.
Merci, Kim Pa. Je rappelle le titre de votre livre, L'endroit du monde, enquête de nos origines sauvages. Il vient de paraître aux éditions Artaud. Un grand merci à vous et bon retour en Suisse, parce que vous ne repartez pas tout de suite pour le Yukon, vous repartez pour la Suisse.
Là. Effectivement, merci beaucoup de m'avoir invité. À très bientôt.
Dans un instant, nous mettons le cap sur l'Arctique et l'Antarctique avec Stéphane Dugast, un spécialiste de l'histoire de l'exploration polaire.
Faut que ça transpire encore dans le bordel des pas le soir, débrayé dans le noir, il faudra réapprendre à voir, il faudra. son sang. Le rythme de son cœur, ses lignes stroboscopées bat un peu plus fort. Elle veut pas s'asseoir, elle veut s'oublier. Elle veut qu'on la drague, qu'on la regarde et qu'on la fasse tourner. Elle veut pas s'asseoir, c'est trop durer.
C'était Respire encore de Clara Luciani dans le temps d'un bivouac et la programmation musicale de cette émission est signée Valentine Chédebois.
Deux départs au Havre et la France sera présente aux deux pôles. Au Groenland d'abord pour lequel on a embarqué la plus importante caravane polaire jamais constituée en Europe sous la direction de Paul-Émile Victor. Sur la Terre Adélie ensuite, vers laquelle est partie la 8e équipe française depuis la Libération. 12 hommes qui assureront la relève au bout de la planète.
Extrait des actualités françaises de 1956. Les missions d'exploration polaire s'enchaînaient les unes après les autres. Bonjour Stéphane Dugast.
Bonjour Daniel.
Spécialiste de l'exploration polaire, l'extrait que nous venons d'entendre est tiré de votre film Odyssée Blanche qui sera diffusé mercredi prochain sur Ushuaïa TV à 20h45. Vous racontez comment, après la Seconde Guerre mondiale, des explorateurs français se sont lancés dans de grandes expéditions vers les pôles nord et sud. On découvre que dès 1947, la France se montre particulièrement active. Elle devient même une des nations en pointe dans le domaine de l'exploration polaire à cette époque.
Pour ne pas dire la nation en pointe, et on le doit à un monsieur, Paul-Émile Victor, entre ethnologue avant-guerre et pendant la guerre, il côtoie les Américains, les unités de search and rescue au milieu polaire, et il va avoir ce coup d'avance en prenant connaissance des avions, des bateaux, des véhicules à chenillettes. Il va l'appliquer, toutes les techniques en fait qui étaient utilisées pour faire la guerre. Souvenez-vous, le débarquement en Provence, en Normandie, il va l'appliquer grosso modo au milieu polaire, et les expéditions vont se mécaniser, et les hommes vont pouvoir durer sur la glace, et la France va prendre un peu le leadership à la fois sur la calotte glaciaire du Groenland, en Arctique, donc au nord dans l'hémisphère nord, et dans l'hémisphère sud, en Terre Adélie, en Antarctique, là où la France avait été la première, en tout cas se prétendait la première à avoir découvert ce grand continent, en Terre Adélie donc, et donc la France en 1947 est une nation en pointe, avec d'anciens résistants, des hommes héroïques, des hommes courageux, des scientifiques, des logisticiens. Bref, la France est une nation polaire à part entière.
Et quel est le but alors de ces missions vers les terres arctiques et antarctiques ?
On pressent que les glaces jouent un rôle sur le climat, en tout cas de l'hémisphère nord. On comprend que cette grande masse de glace, on l'a très peu étudiée, puisque l'homme y allait en traîneau et essayait de comprendre cet univers où les vents sont dits catabatiques, les vents soufflent fort, il fait très très froid. Bref, l'homme n'avait pas pris pied, à part peut-être mettre un drapeau au pôle nord et au pôle sud, et ça c'est au début du XXe siècle. Et dans ces années effervescentes et bouillonnantes d'après-guerre, fin des années 1940, 1950, 1960, on comprend que ces grandes masses de glace doivent avoir un impact, on ne sait pas trop encore comment, et se mettent en place les grandes années de géophysique internationale qui deviendront plus tard les années polaires internationales. Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'on est en pleine guerre froide avec des Russes et des Américains qui se font face en Arctique. En tout cas, sur les glaces, on va faire la paix et les scientifiques vont œuvrer de concert ensemble à essayer de découvrir le mystère de ces glaces.
Alors, il y a des raids, des hivernages dans des conditions incroyables. Un exemple de mission emblématique, elle est menée en Antarctique, à la base nommée Charcot, du nom de l'illustre explorateur polaire. Dans l'équivalent d'un sous-marin de poche, hein, c'est ce qui est dit dans votre film, enterré dans la neige à plus de 2000 mètres d'altitude en Antarctique, trois hommes vont passer près d'un an coupés de tout.
Trois hommes, donc Roland Schmich, Claude Lorius et Jacques Dubois, on n'est pas loin du pôle sud magnétique puisque les Français ont trouvé pas mieux que de s'enterrer sous les glaces pour pouvoir hiverner pendant des mois, pendant des hivers où les températures peuvent atteindre jusqu'à moins 89 degrés Celsius. Donc on est vraiment quasiment sur une vie sur la planète Mars ou sur une autre planète. Et ces hommes vont faire leurs mesures, vont vivre des aventures complètement extraordinaires. Et ce jeune glaciologue, Claude Lorius, 23 ans, va étudier les glaces, va étudier la composition des glaces et va avoir le pressentiment que peut-être dans cette composition des glaces est renfermé le climat de notre planète. On fait des carottages, qu'on creuse dans ces glaces. Et cette aventure va poser les fondements de la glaciologie.
Oui, c'est ça, hein, parce que grâce à ces expéditions, on va finir par découvrir, et Claude Lorius en tête, ce qui est à l'œuvre avec le changement climatique. Grâce aux bulles d'air piégées dans ces glaces, on a accès à l'atmosphère du passé.
Complètement, on commence à creuser mètre par mètre, on analyse ces bulles d'air, on commence à remonter, et dans le film il y a une phrase que j'adore, c'est que les Français commencent à remonter jusqu'à Napoléon III, et les Américains jusqu'au temps de Napoléon III, pardonnez-moi, et les Américains qui ont les moyens de fourrer plus profondément vont remonter jusqu'au temps de Charlemagne. Mmh. Et nos amis russes, eux, vont creuser encore plus profondément, et on va remonter jusqu'à moins 35 000 ans, enfin bref, on va retracer tout le climat de la planète et comprendre qu'en fait, sur cette planète, il y a eu des cycles de glaciation, des cycles où ça s'est réchauffé, et ce dernier réchauffement climatique auquel on assiste depuis le milieu du 19e siècle, bah ça retombe pas, on retombe pas dans une période très froide, et là qu'on comprend qu'il y a un effet peut-être exogène, un autre effet, et c'est Claude Lorius qui va permettre, avec d'autres scientifiques, d'autres glaciologues, et plein de gens brillants, des hommes et des femmes de science, de comprendre que le réchauffement climatique est avéré.
Aujourd'hui, l'Antarctique est considéré comme une terre de paix et de science. Un traité international interdit que l'on exploite les éventuelles ressources minières qui pourraient s'y trouver. Et dans votre film, Stéphane Dugast, vous revenez sur les coulisses de la ratification de ce traité. Ce n'est pas qu'un symbole, ce traité.
Non, ce traité, on l'a signé, figurez-vous, en 1959, donc on l'appelle le traité de Washington pour la préservation de l'Antarctique, ce continent qui n'appartient à personne, mais où tout le monde peut établir une base scientifique. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de douaniers, il n'y a pas d'armée, il n'y a surtout pas d'exploitation du sous-sol. Et cette merveilleuse utopie a été mise à mal dans les années 90, et on le doit à un homme politique français, Michel Rocard, épaulé par Robert Hooke, un Australien, qui vont faire un pied de nez à la communauté internationale pour continuer de préserver cette formidable utopie que ce continent appartienne à tout le monde et tout en appartenant à personne, mais qu'on puisse continuer de faire de la science. Et j'ai voulu raconter la coulisse de cette affaire qui met aux prises aussi un dénommé Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau, qui va œuvrer aussi pour la protection de l'Antarctique. Donc figurez-vous que jusqu'en 2048, l'Antarctique continue d'être une terre de science et de paix. Moi, j'adore cette utopie, j'adore ces utopies. J'aime cette phrase de Théodore Monod qui résonne en moi. L'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Et on le trouve en Antarctique, en étudiant ces glaces, puisque la France, depuis 1956, étudie, envoie des hommes, des logisticiens, des scientifiques en Terre Adélie, maintenant à Concordia, à l'intérieur du continent, pour faire de la science et pour faire du bien à l'humanité.
Merci Stéphane Dugast. Votre film sera diffusé ce soir à 18h au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, dans le cadre de la Nuit Polaire. Mercredi prochain aussi à 20h45 sur Ushuaïa TV. Et puis il sera aussi projeté dans le cadre du festival Les Écrans de l'Aventure de Dijon vendredi prochain. L'occasion de recommander chaudement ce festival qui se tient donc à Dijon, Les Écrans de l'Aventure, du 14 au 17 octobre, avec beaucoup de très jolis films à découvrir. Nous allons mettre un lien vers leur programme sur la page de l'émission. Un grand merci à vous, Stéphane Dugast.
Merci Daniel.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast avec l'appli France Inter. Merci pour vos messages sur notre page Facebook ou sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.